juste 10h à Damas. Merci d'écouter RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
Gaëtan Plenet.
Et Alban Le Prince pour un nouveau journal avec à la une, Alban, de nouvelles manifestations hier soir en Israël pour réclamer la libération des otages.
Rassemblement alors que le Hamas a diffusé hier la vidéo d'une jeune femme de 19 ans enlevée le 7 octobre 2023. Reportage à Jérusalem dans un instant. 3 semaines après le passage du cyclone Chido, direction Mayotte pour Marine Le Pen aujourd'hui, département dans lequel la chef des députés Rassemblement National et ancienne candidate à l'Élysée avait récolté près de 60% des voix à la dernière présidentielle. Nous reviendrons aussi sur cette enquête publiée par le New York Times. Elle liste, cartographie, documente les exactions filmées par les combattants des FSR au Soudan. Un travail qui pourrait servir dans l'éventualité d'une enquête internationale. Et puis ils étaient des centaines réunis hier devant le palais présidentiel en Argentine. Les Vénézuéliens venus soutenir Edmundo González Urrutia, opposant de Nicolas Maduro. Ils veulent croire à l'investiture le 10 janvier de leur candidat.
Israël confirme finalement la reprise de négociations indirectes avec le Hamas en vue de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza.
Déclaration alors que plusieurs dizaines de personnes sont mortes hier dans des frappes israéliennes et que la branche armée du Hamas a diffusé une nouvelle vidéo d'une otage. Vidéo de 3 minutes 30, impossible à dater, dans laquelle Liri Elbag, 19 ans, enlevé le 7 octobre dans la base militaire de Nahal Oz, appelle le gouvernement israélien à agir pour obtenir sa libération. Un signe de vie qui a poussé les Israéliens à manifester dans la soirée pour faire pression sur le gouvernement. Le reportage à Jérusalem pour RFI de Michel Paul.
Guerre psychologique pour certains, mais la famille de Liri Elbag demande à Benjamin Netanyahou de poursuivre la négociation jusqu'à la conclusion d'un accord qui permette la libération de la jeune soldate. La vidéo diffusée par le Hamas redonne un peu d'espoir aux proches des otages et aux dizaines de milliers de manifestants à travers le pays venus comme à Nat apporter leur soutien.
On pourrait espérer qu'il y ait un accord, mais je n'y crois pas beaucoup. On aurait dû arrêter la guerre hier et ramener tous les otages avant-hier et vivants. On n'a pas besoin de Gaza.
Mais nombreux aussi sont ceux qui redoutent une fois de plus l'échec des pourparlers. Au dernier moment, l'activiste Orly Barlev accuse le premier ministre israélien de torpiller les efforts pour libérer les otages retenus à Gaza depuis 456 jours.
C'est quelque chose qui se produit à cause d'une personne, Netanyahou. S'il le voulait vraiment, il serait tout cela depuis longtemps. Pour des motifs criminels liés à sa survie politique, il sacrifie les otages, des civils et des militaires, nos frères et sœurs.
Israël a confirmé samedi soir la reprise des négociations indirectes avec le Hamas et la poursuite des efforts en cours pour libérer les otages. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et les sirènes d'alerte ont retenti ce matin dans le nord d'Israël après le tir d'un missile en provenance du Yémen qui a été intercepté avant de pénétrer le territoire d'après l'armée israélienne. Après Emmanuel Macron et François Bayrou, 3 semaines après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts et 5600 blessés, c'est maintenant Marine Le Pen, chef des députés Rassemblement National, qui est attendue à Mayotte aujourd'hui. Coup d'envoi d'une visite pour rencontrer secouristes et sinistrés qui devrait durer jusqu'à mardi pour l'ancienne candidate à la présidentielle. Elle avait obtenu près de 60% des voix en 2022 sur l'archipel. Les précisions de Raphaël Delvolvé.
Peu de chance de voir Marine Le Pen conspuée comme le fut Emmanuel Macron il y a 2 semaines. Dans l'archipel, le RN enchaîne les cartons électoraux dernièrement. 52% aux européennes l'an dernier, 59% au second tour de la dernière présidentielle. Un terrain idéal pour s'afficher en chef de l'opposition sur cette île à laquelle Marine Le Pen clame régulièrement son attachement, comme mardi dernier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et dédiée spécialement aux Mahorais pour la nouvelle année.
Nous avons pour vous une affection immense et nous souffrons de ne rien pouvoir faire puisque nous ne sommes pas en situation de gouverner le pays et donc de prendre des décisions.
Sur place, Marine Le Pen voudra montrer qu'elle comprend la détresse des habitants d'un territoire dévasté par le cyclone, mais aussi s'engager à mettre la pression pour que les mesures promises par François Bayrou se concrétisent.
Les députés du Rassemblement National feront tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer l'aide dont vous avez besoin.
Ce voyage est aussi évidemment l'occasion d'enfoncer le clou sur la question migratoire très prégnante à Mayotte et thème de prédilection du Rassemblement national, ce qui explique d'ailleurs en grande partie la popularité de Marine Le Pen dans l'océan Indien.
Raphaël Delvolvé, la question de l'immigration qui doit être traitée, engagement pris ce matin dans les colonnes du JDD par Manuel Valls, le ministre des Outre-mer.
9h05 à Khartoum, au Soudan, pays en guerre depuis 21 mois maintenant.
Et pour cartographier et documenter les exactions des forces de soutien rapide, une équipe de journalistes du New York Times s'est associée aux chercheurs Open Source. Ensemble, ils ont analysé des dizaines de vidéos de massacres filmées par les combattants, les dates, les lieux, les responsables, et viennent de sortir une vaste enquête. Les détails avec Alexandra Branchon.
Des dizaines et des dizaines de vidéos prises par de jeunes combattants FSR et publiées sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Facebook. Souvent très jeunes, armes à la main, portant l'uniforme des paramilitaires, ces hommes se filment en situation. Ils prennent la caméra de leur téléphone à témoin, se vantent de leur exploit, des villages qu'ils ont détruits, des hommes qu'ils ont tués, et donnent des dates, des noms de villes, de quartiers et de responsables sur le terrain. Dans l'une de ces vidéos, un combattant filme une rue vide, des cadavres au sol. Nous sommes dans le quartier d'Al-Tarwa, à El-Janeina, dit-il, avant d'ajouter « Les Massalites ont été éradiqués avec succès, grâce à Dieu ». Dans une autre, un commandant justifie les viols commis par ses troupes. « Si nous violons vos sœurs et vos filles, c'est notre droit », affirme-t-il face caméra. L'équipe a d'ailleurs pu retrouver l'identité de cet homme. En recoupant les différents témoignages, journalistes et chercheurs ont pu identifier une vingtaine de commandants FSR, reconstituer leur structure hiérarchique et les responsabilités des uns et des autres. Des preuves visuelles précieuses dans l'éventualité d'une enquête internationale.
Alexandra Branjon.
Deuxième jour de la tournée latino-américaine de l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia aujourd'hui.
Celui qui revendique la victoire à la présidentielle face à Nicolas Maduro, dont l'investiture est prévue vendredi prochain, le 10 janvier, doit s'entretenir avec Joe Biden, le président américain. Hier, il était reçu par l'Argentin Javier Milei, qui ne reconnaît pas l'élection de Maduro à la Casa Rosada. Au même moment, des centaines de Vénézuéliens se sont réunis sur la Plaza de Mayo, en face du palais présidentiel à Buenos Aires. Théo Conscience, correspondant de RFI, y était.
Sous l'immense drapeau argentin qui flotte sur la place de Mai, une nuée de drapeaux vénézuéliens.
Para defender nuestra democracia.
C'est pour défendre la démocratie au Venezuela qu'Irene Calcagno, 70 ans, dont 6 en exil en Argentine, est venue devant la Casa Rosada.
Notre président élu, Edmundo González Urrutia, est invité par le président Milei aujourd'hui. Nous sommes venus le saluer ici car nous ne pourrons pas assister à sa prise de pouvoir le 10 janvier.
Ici, tout le monde veut croire que Nicolas Maduro vit ses dernières heures à la tête du Venezuela. C'est ce qu'espère et attend Maria Estela Navarro pour pouvoir rentrer dans son pays.
Toutes mes affaires, ma famille, ma sœur sont là-bas. Mes enfants sont ici depuis 8 ans et je suis venue à cause de la situation politique. Mais j'espère pouvoir rentrer d'ici 2 ou 3 mois quand tout sera réglé.
Peu avant midi, Edmundo González Urrutia et Javier Milei apparaissent au balcon de la Casa Rosada. Les parents hissent leurs enfants sur leurs épaules, la foule exulte et entonne l'hymne national vénézuélien. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Le président chilien Gabriel Boric, lui, a effectué vendredi une visite historique.
Au pôle sud, dans le cadre de l'expédition Étoile polaire 3, il est ainsi devenu le premier chef d'État latino-américain à poser le pied en Antarctique, objectif réaffirmer la souveraineté de son pays sur la partie du continent. Les détails à Santiago pour RFI de Naila Derouane.
Il a fallu 36 heures au président chilien pour rejoindre depuis Santiago la base américaine Amundsen Scott, située en Antarctique. Gabriel Boric était accompagné de 2 de ses ministres, des commandants en chef des forces armées et de plusieurs scientifiques. Avec moins 25 degrés, ils ne sont restés que 2 heures sur place, mais le président chilien en a profité pour rappeler que son pays est la principale porte d'entrée du monde sur l'Antarctique, qui est et devra rester un continent de science et de paix. C'est d'ailleurs ce que stipule le traité de l'Antarctique, signé États-Unis en 1959 et qui indique par ailleurs que le continent blanc n'appartient à aucune nation, même si aujourd'hui ils sont 7 pays à en réclamer la souveraineté, parmi lesquels le Chili. Et à partir de 2048, ce traité pourra à nouveau être rediscuté. Avec cette visite, Gabriel Boric prend donc les devants pour positionner le Chili comme un acteur fort dans cette région, très convoitée pour son pétrole par la Chine, la Russie, les États-Unis ou encore l'Argentine. Le Chili, au contraire, veut renforcer en Antarctique la recherche scientifique ainsi que la préservation de la biodiversité. Naïla Derouane, Santiago, RFI.
On termine ce journal, Alban, avec les sports, le foot. Et c'est la fin de la trêve pour le PSG qui dispute ce dimanche son premier match de 2025.
Les Parisiens affrontent Monaco aujourd'hui pour le trophée des champions, initialement prévu à Pékin en août dernier. C'est finalement à Doha, au Qatar, que la rencontre aura lieu à partir de 16h30. TU, l'enjeu pour Paris, c'est de décrocher le premier titre de la saison quasi à domicile, Cédric De Oliveira.
Après bientôt 12 saisons au PSG, Marquinhos est un habitué des lieux. Le club vient en stage au Qatar tous les ans à cette époque de l'année et le capitaine parisien est ravi d'être à Doha.
Je pense que les voyages comme ça, les petits moments qu'on est ensemble, qu'on revient par la maison, qu'on est tous ensemble, on mange ensemble, ça fait partie de la cohésion de groupe. Ça nous fait du bien et je pense que voilà, il faut bien commencer cette deuxième partie de saison.
Pour éviter que la colonie de vacances soit un mauvais souvenir, le PSG n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Dans le pays de son actionnaire tout-puissant, battre Monaco est une nécessité, le minimum pour un club de son statut, après une première partie de saison parfois décevante en Ligue des Champions. Pour son entraîneur Luis Enrique, c'est un virage important à négocier.
J'espère que le début de cette année sera bon, d'autant qu'on va débuter une série de matchs où on va jouer tous les trois jours. C'est une finale face à une des meilleures équipes de notre championnat. On sait que ce sera difficile, mais on espère surtout que le public va voir un beau match de foot.
44 000 personnes sont attendues au milieu des containers du stade 974 de Doha, l'une des enceintes de la dernière Coupe du Monde. Vainqueur de 11 des 12 dernières éditions du Trophée des Champions, le PSG espère poursuivre sa série avant de se plonger dans d'autres objectifs plus importants, notamment la Ligue des Champions dans moins de 3 semaines.
PSG Monaco pour le Trophée des Champions, c'est à Doha, au Qatar. Coup d'envoi 16h30 en universel.
Merci Alban Le Prince, 8h et bientôt 12 minutes à Paris. À suivre la chronique politique, on va se demander si l'année 2025 sera aussi chaotique que celle qui vient de s'achever pour le président français Emmanuel Macron, car elle n'a pas été de tout repos, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis entretien à suivre avec Jean-Noël Schifano, le directeur de la collection Continent Noir chez Gallimard. Elle fête cette collection ses 25 ans et continue à consacrer la littérature africaine, n'en déplaise à ses détracteurs. Mais d'abord, la revue des hebdos. Avec vous, Catherine Potet, la revue des hebdos et des journaux du dimanche, avec à la une le 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo.
Déjà 10 ans, s'exclame Marianne. 10 ans que l'équipe du journal satirique a été décimée par les frères Kouachi, auteurs de cet attentat islamiste. Un anniversaire que les hebdomadaires commémorent, chacun à leur manière. Marianne a cherché à savoir comment les survivants ont surmonté cette épreuve et comment ils vivent aujourd'hui. À l'ombre des portiques de sécurité, nous dit l'hebdomadaire, Charlie Hebdo continue de jongler entre le poids des drames passés et l'insolence joyeuse du quotidien. Rédacteur en chef Gérard Biard s'exprime ainsi. La rédaction doit être un sanctuaire, mais non un mausolée. Ils sont toujours vivants, dit-il en évoquant ses amis tombés le 7 janvier 2015. Le drame n'habite pas nos journées, par pudeur autant que par volonté d'aller au-delà de ce qui s'est passé, explique de son côté Laure Dossi, reportrice à Charlie Hebdo. Le journal doit aussi faire face aux réalités de 2025, comme l'explique le rédacteur en chef Gérard Biard. Il y a aujourd'hui 50% de dessins en moins dans la presse par rapport à il y a 10 ans.
Et Catherine, l'Express consacre également un long article à Charlie Hebdo.
10 ans après, que dirions-nous à ceux qui sont tombés, interroge l'hebdomadaire. Où en sommes-nous une décennie plus tard? Hélas, le constat ne peut qu'être sombre, déplore l'Express, qui questionne encore, que dirions-nous aux morts de Charlie Hebdo? Que la liberté d'expression a triomphé, il faudrait leur taire la vérité. Samuel Paty, décapité à la sortie de son collège, pour avoir donné un cours sur la liberté d'expression à ses élèves de 4e, et ce faisant montrer 2 caricatures de Mahomet publiées par Charlie. Dirions-nous que la République tient ferme face à l'islamisme, interroge l'hebdomadaire, que l'antisémitisme a reculé, alors que depuis le 7 octobre 2023, il a flambé comme jamais depuis des décennies. Cet anniversaire n'est pas seulement triste parce qu'il commémore des attentats qui ont meurtri la France, conclut l'Express. Il l'est aussi parce que 10 ans plus tard, on ne peut s'empêcher de tirer un sombre bilan. Constat que fait également la Tribune dimanche. Pour le journal, l'attentat de la Nouvelle-Orléans nous montre que la victoire contre le terrorisme et l'islamisme n'est jamais définitivement acquise.
Et à la une de la presse hebdomadaire également, Catherine, la Syrie après la chute de Bachar el-Assad.
L'envoyé spécial du Nouvel Obs a visité la prison de Sennaya avec un ancien détenu. Il s'appelle Yassine. Il nous a confié l'indicible, explique l'hebdomadaire. Les tortures des hommes du régime, de celles qui te tuent lentement, dit-il, et qui te rendent comme un mort-vivant. Il nous a dit qu'au fond de lui, il ne ressentait ni joie ni peine, qu'il n'était plus un homme, juste un corps tordu de souffrance. Mais Yassine veut témoigner et il veut que son témoignage serve de preuve des crimes de Bachar. Yassine décrit l'enfer. L'enfer, explique le Nouvel Obs, c'est une petite porte qui descend au sous-sol. Il n'y a là pas un ray de lumière, alors on se repère au chuchotement horrifié de quelques silhouettes qui cherchent à la lumière de leur téléphone une trace de ceux qui ne sont jamais revenus. Au bout du couloir, poursuit le Nouvel Obs, derrière des grilles, Yassine nous montre une bassine rouge encore remplie d'eau glacée dans laquelle les gardiens plongeaient la tête des prisonniers jusqu'à les laisser inconscients, les réveillaient avec un coup de matraque et recommençaient. Ce n'est pas tout. Les tortionnaires du régime de Damas faisaient preuve d'une imagination sans bornes dans la cruauté, à tel point que c'en est, comme dit le Nouvel Obs, indicible.
Et à lire également cette semaine, Catherine, un article du Point sur Elon Musk.
Jusqu'où ira l'extravagant Monsieur Musk, se demande le Point, précisant que le céréal entrepreneur Tesla, SpaceX, Grok X s'apprête à prendre une responsabilité de poids auprès de Donald Trump. Comment le décrire ? C'est une personnalité hors du commun qui détonne par ses idées extraterrestres, un caractère imprévisible et un sens militaire de l'exécution, estime le Point, qui se demande encore qui arrêtera la fusée Musk. L'hebdomadaire ne cache pas son admiration et observe une cohérence dans ses 1000 projets. Si Elon Musk a fait ricaner certains cadres d'Arianespace, son développement de fusées réutilisables fait aujourd'hui l'unanimité. Il permet aux combattants ukrainiens, ajoute le Point, d'être connectés à Internet grâce à l'envoi de satellites Starlink dont ils tapissent le ciel au rythme de 300 par mois. L'hebdomadaire regrette toutefois chez cet amoureux des sciences la tentation de partager des messages incongrus, voire complotistes. Trop souvent, Musk dit des choses qui ne sont pas vraies, renchérit Reid Hoffman, le co-créateur de LinkedIn. Quant à d'éventuelles ambitions présidentielles, Donald Trump s'est lui-même rassuré en disant que Musk ne pouvait pas avoir cette ambition car il n'est pas né aux États-Unis. Le milliardaire a en effet vu le jour en Afrique du Sud et n'est arrivé aux États-Unis qu'à l'âge de 24 ans. Or, précise le Point, la Constitution américaine impose que le dirigeant du pays soit né citoyen américain.
La revue des hebdos signée Catherine Potet. C'est l'heure de notre première chronique politique de l'année avec une question. 2025 va-t-elle être aussi chaotique pour Emmanuel Macron que 2024, marquée par la déflagration d'une dissolution qui a engendré l'instabilité politique? Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Gaëtan.
Alors le chef de l'État, Valérie, va-t-il continuer à payer cette année le prix de sa décision de dissoudre l'Assemblée?
Eh bien certainement, car la dissolution est un poison durable qu'Emmanuel Macron a lui-même injecté dans son quinquennat. Quand il a prononcé ses vœux aux Français le 31 décembre, le président de la République a bien tenté de tourner la page de cette dissolution ratée en reconnaissant pour la première fois depuis 6 mois que sa décision avait provoqué plus de divisions que de solutions, mais faire tardivement œuvre de lucidité et d'humilité risque de ne pas être suffisant pour inverser la tendance. Il est loin le temps où l'on surnommait Emmanuel Macron Jupiter pour manifester sa puissance et sa domination. Dans l'entourage du chef de l'État, on en est désormais réduit à théoriser la posture du président qui préside, du garant plus que du gouvernant, pour tenter de faire comme si finalement cette situation d'affaiblissement du président était maîtrisée et créée autour de lui une bulle institutionnelle protectrice en agitant les pouvoirs qui lui restent, par exemple celui d'organiser des référendums.
Et cela veut-il dire qu'Emmanuel Macron a besoin de protection ?
Oui, parce qu'il est clairement dans le viseur de ses adversaires et surtout de Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis déjà 3 fois candidat à la présidentielle, se verrait bien tenter sa chance une quatrième fois et pourquoi pas dès 2025 lors d'un scrutin anticipé. Alors après avoir tenté sans succès de lancer une procédure de destitution, il joue maintenant la carte de l'appel à la démission d'Emmanuel Macron. La stratégie de censure à répétition de LFI vise à provoquer l'instabilité et à mettre le chef de l'État dans une situation où son départ de l'Élysée serait la seule solution.
Et Marine Le Pen, elle aussi, mais la pression sur Emmanuel Macron.
Oui, elle ne réclame pas clairement sa démission, mais laisse planer l'hypothèse et s'interroge sur la capacité du président à tenir jusqu'en 2027. Dans ce contexte, un cadre Renaissance s'inquiète de la volonté d'accentuer la pression en 2025 des deux opposants qui sont poussés, dit-il, par l'horloge qui tourne. Une horloge biologique, selon lui, pour l'insoumis de 73 ans. Une horloge successorale pour la députée RN, talonnée par Jordan Bardella. Reste à savoir jusqu'à quand, face à leurs assauts, Emmanuel Macron réussira, lui, à faire avancer l'horloge présidentielle.
C'était la chronique politique. Merci Valérie
Gasse. RFI, toute l'actualité. Gaëtan Plenet.
À 8h20 à Paris. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle hier samedi de la ville de Massissi Centre après de violents affrontements avec l'armée congolaise appuyée, elle, par les milices locales dites Wazalendo. La chute de cette ville clé et chef-lieu du territoire de Massissi, situé à plus de 80 km à l'ouest de Goma, a conduit à un déplacement massif de la population. Les négociations sur Gaza ont bien repris au Qatar après le Hamas. Israël le confirme à son tour, des négociations indirectes alors qu'hier les services de secours gazaouis ont fait état d'au moins 31 morts après de nouvelles frappes israéliennes. Ils n'ont que faire de la neige qui tombe en ce moment à Séoul. Des milliers de Sud-Coréens à nouveau dans les rues de la capitale. Des tracteurs comme soutien du président déchu Nicolas Maduro, toujours menacé par un mandat d'arrêt qui expire demain. Et puis les États-Unis ouvrent 6 jours d'hommage à Jimmy Carter, l'ex-président américain mort le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. Ces cérémonies vont se poursuivre jusqu'à jeudi, date du jour du deuil national. Continent Noir fête ses 25 ans cette année, créée par les éditions Gallimard et consacrée aux écrivains d'Afrique et de sa diaspora. L'initiative a été longtemps décriée, ses fondateurs accusés de vouloir ghettoiser la littérature africaine. Il n'en reste pas moins que cette collection, aujourd'hui riche de quelques 130 titres, a permis de faire émerger de grands noms des lettres africaines contemporaines. Tiertankar Chanda en parle avec Jean-Noël Skifano, directeur de la collection.
Bonjour Jean-Noël Skifano. Voulez-vous rappeler les circonstances de la naissance de la collection Continent Noir ?
C'est une aventure littéraire qui a commencé avec le voyage fondateur que j'ai fait avec Antoine Gallimard au Gabon, à Libreville, en janvier 99. Pendant le voyage, Antoine me dit « ce serait bien si tu prenais la tête d'une collection qui concerne l'Afrique, des écrivains africains, et qu'on fonde cette collection dans la maison Gallimard ». Et exactement un an après, on vient présenter au même lieu, au Gabon, à Libreville, 5 premiers auteurs de Continent Noir. Voilà, 25 ans après, on en est avec plus de 130 titres, 54 auteurs et une trentaine de prix littéraires.
Qui sont les 5 premiers auteurs de la collection ?
Les 5 premiers auteurs de Continent Noir sont Gaston Poléfa et son roman « Le cri que tu pousses ne réveillera personne », Justine Minsa et son roman qui s'appelle « Histoire d'Aou » traduit aux États-Unis qui ne cesse d'être réimprimé, Sylvie Candé, très grande poétesse, très grande styliste, et son premier ouvrage « Lagon Lagune » postfacé par Édouard Glissant, « La révolte du Como », roman d'un Malien, Ali Diallo, et parmi eux, Antoine Gallimard m'a proposé de publier une des plus puissante racine des littératures africaines, le Nigérian Amos Tutuola, le roman traduit dans la langue de Voltaire en 1953 par Raymond Queneau, le titre de ce roman « L'ivrogne dans la brousse ». Et c'est un roman Yoruba, chef-d'œuvre absolu. Amos Tutuola, grand écrivain, personne ne peut le nier. Eh bien, quand il est mort, personne au monde n'en a parlé. Il n'y a eu rien dans les médias, ni en France, ni en Angleterre, où il publiait chez Faber & Faber. Dans Continent Noir, je suis très heureux d'avoir aidé à sa résurrection.
Racines et découvertes sont les deux logiques sur lesquelles vous avez bâti Continent Noir. Quels sont les principaux auteurs découverts au cours des 25 années écoulées ?
Je vous donne les auteurs qui ont publié dans Continent Noir leur premier livre. Sylvie Candé, je vous l'ai nommé, Lagon Lagune. C'est une auteure qui sait écrire en vers des épopées historiques. Ousmane Diarra, dont le dernier roman, La Route des Clameurs, est sorti aussi en folio. Natacha Apana, qui, il y a plus de 20 ans, m'apparaît un beau jour de printemps, timide et radieuse jeune femme, au milieu du Salon du Livre de Paris, le manuscrit des Rochers de Poudre d'Or à la main, est fait aujourd'hui partie du prestigieux, s'il en est, comité de lecture Gallimard. Mahamat Saleh Haroun, le grand cinéaste, est fêté à Cannes, à Venise et partout où ses films nous émeuvent tant. Il choisit Continent Noir pour ses premiers romans. C'est un nouvel écrivain qui a guéri dans l'art de faire voir et d'émouvoir. Eh ben, qu'est-ce que c'est écrire ? C'est faire voir et émouvoir avec des mots. Et lui, il a commencé par les images. Vous voyez, c'est ça la marche de Continent Noir.
Vous recevez à peu près 200 manuscrits par an. Quels sont vos critères de sélection ?
Quelqu'un qui écrit, qui sait faire voir et émouvoir, c'est importantissime. Parce que dans la nostalgie et la vengeance, qui sont les deux temps du moteur de l'écriture, eh bien, l'Afrique, qui a tant souffert, et qui vit, qui ressuscite, qui revit, et des écrivains africains qui cherchent toujours un cheminement dans l'écriture, ils ont vraiment une place royale. C'est pourquoi moi, j'ai toujours voulu faire de Continent Noir, depuis le début, une pointe de diamant de l'écriture universelle. Et je crois que ces 25 ans vont confirmer que la pointe de diamant est bien taillée.
Et notez que vous retrouverez plus longuement Jean-Noël Schifano, qui était ici interrogé par Tirtankar Chanda. Demain, cette fois avec Nathalie Amar, dans la nouvelle émission Culture de RFI sur le Pont des Arts. Rendez-vous donc demain à 16h10, heure de Paris. Rien de trop beau pour les dieux, c'est sous ce titre que sont réunis à la Fondation Opale, au cœur des Alpes suisses, des œuvres contemporaines de tous les continents, imprégnées de spiritualité et de croyance aussi. Si la religion et la foi font partie de l'art classique occidental, l'art contemporain, lui, s'est décrété laïque. Et Jean-Hubert Martin, le commissaire de l'exposition, a voulu contrer cette règle. Muriel Malouf l'a rencontré.
Hôtel Vaudou, impressionnant, avec ses 43 statues dédiées à Mamiwata, la déesse d'Afrique de l'Ouest. Un autre, cumulant aussi les personnages et statuettes pour le culte de Kimbanda au Brésil, entre tradition précolombienne et catholicisme, font partie des installations majeures de l'exposition orchestrée par Jean-Hubert Martin.
La mondialisation a fait que on a enfin ouvert les vannes, si je puis dire, à des artistes venant de continents et de croyances et de traditions complètement différentes, et on fait que ce monde de l'art contemporain est en train de changer énormément en ce moment.
Une mondialisation qui permet aussi aux artistes de mêler les apports culturels. Ainsi, Hervé Yumbi, l'artiste camerounais, s'est inspiré pour son masque de Scream, le film d'horreur de Wes Craven, un masque de fantôme issu du cri d'Edward Munch. De même, il inverse les pratiques issues de la colonisation. Les collectionneurs occidentaux se procurent en effet des objets issus des rituels pour les exposer. Hervé Yumbi commence d'abord par exposer ses créations avant de les intégrer au rite.
Je produis des masques hybrides qui sont destinés dans un premier temps à être exposés et après qui retournent dans l'univers rituel. Et donc là nous avons un spécimen de masque Tso qui a été conduit dans un village dénommé Fondanti, c'est à l'ouest Cameroun. Quand je dis conduit, c'est conduit dans l'univers rituel.
Le rituel que les artistes s'approprient, la chilienne Sandra Vasquez, reprend des éléments d'hôtel vaudou dans son œuvre contemporaine en céramique, composée d'une pyramide d'assiettes où percent des yeux, des visages. La coréenne Kim Suja présente, elle, un jukebox, véritable syncrétisme sonore, d'où jaillit des chants grégoriens, musulmans et tibétains. Les artistes aborigènes sont aussi présents dans la fondation Opale qui leur est dédiée au départ. Quatre hommes créent in situ une peinture au sol. Georges Petitjean, commissaire.
La pratique de faire de l'art ne peut pas être dissociée de la culture, de la religion. Donc, ces œuvres parlent de la terre, du pays, de ces artistes. Et il y a plusieurs mythes qui sont racontés dans ces œuvres. Ce que nous appelons mythes, eux, ils appellent cela Chukurpa, ou des rêves.
Une exposition qui repousse les frontières de l'art contemporain et le décloisonne.
Un reportage de Muriel Mahalouf à retrouver sur RFI.fr. RFI Matin, dernière demi-heure, ça commence dans une minute avec le journal consacré à l'actualité africaine. Et puis, on fera notre tour du monde des correspondants avec des arrêts, notamment au Japon et au Canada pour parler de la place prépondérante que l'intelligence artificielle a pris dans nos vies et les sociétés comme les pouvoirs publics ont commencé à s'adapter. À tout de suite sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez jusqu'au 26 janvier sur APAfrique, APAfrique.rfi.fr.